Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme ce samedi matin. Merci à vous d'être au rendez-vous chaque semaine de 9h15 à 10h sur RTL. Nous voilà bien, c'est un savant mélange d'infos pratiques, de recommandations, d'astuces et de recettes avec une pointe de bonne humeur pour délayer le tout. Restez donc à notre écoute pour bien démarrer votre week-end. C'est un marché en plein essor qui transforme notre façon de consommer. Alors les produits reconditionnés sont-ils fiables? On fait le point avec Armel Lévy, journaliste au service éco et conso de RTL. Près d'un foyer sur deux en France possède au moins un animal de compagnie. Tout comme nous, ils ont à leur façon un médecin traitant. Alors comment les vétérinaires prennent-ils soin d'eux et à quel prix? Réponse avec Charlotte Deveau, elle-même vétérinaire. Elle fait son grand retour sur les étals. Comment cuisiner la betterave? Redécouvrez ce légume grâce aux recettes de Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire.
Et le produit de l'année, grâce à mon inventivité.
Armel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notre produit de l'année, mais aussi de tous les samedis matins. Vous êtes journaliste au service éco et conso de RTL. Un produit reconditionné, c'est quoi, Armel?
Eh bien, c'est un produit qui a déjà été vendu neuf et mis une fois sur le marché. Il a déjà eu une première vie. Son propriétaire a décidé de s'en séparer. Donc, il repart dans le circuit industriel pour être testé et remis en état par un professionnel. L'appareil est ensuite revendu pour une deuxième vie. Le produit reconditionné a une garantie entre 12 et 24 mois et un service après-vente associé.
Alors, quelle est la différence avec les produits d'occasion?
Eh bien, les produits d'occasion sont aussi des produits de seconde main, mais ils ne sont pas remis en état par un professionnel. Quand on parle de produits reconditionnés, les professionnels changent les pièces usées, ils certifient l'effacement des données personnelles de l'ancien propriétaire. Sur un smartphone, ils contrôlent près de 50 fonctionnalités. Le fonctionnement de l'écran, l'autonomie de la batterie, la 4G, l'audio, la vidéo. D'ailleurs, les concessionnaires automobiles et aussi emploient maintenant le terme de véhicule reconditionné et non plus d'occasion, qu'ils laissent pour les ventes entre particuliers parce que le garagiste, qui est un professionnel, fait les réparations avant de revendre la voiture et la voiture est garantie, elle bénéficie d'un service après-vente, ça rentre bien dans la case produits reconditionnés.
Est-ce que les Français sont séduits par ce type de produit?
Eh oui, 45% des Français ont déjà franchi le pas et acheté des produits reconditionnés parce que c'est un bon plan, on peut faire 10% d'économie en achetant un iPhone ou un Samsung reconditionné de moins de 6 mois et payer jusqu'à moins 70% pour les modèles les plus anciens. L'an dernier, nous avons acheté 20 millions de téléphones neufs et aussi 2 millions de smartphones reconditionnés. C'est 10% des ventes totales de smartphones. Ce marché du téléphone reconditionné représente désormais en France 500 millions d'euros. Il faut dire que nous, les Français, renouvelons notre smartphone en moyenne tous les 18-24 mois.
C'est dingue.
Alors que 9 fois sur 10, le téléphone fonctionne encore, histoire d'avoir un modèle un peu plus récent.
Alors là, vous nous parlez des téléphones, des voitures, mais quels sont les autres produits que l'on peut trouver?
Eh bien, essentiellement des produits high-tech, hein, ouais. Donc effectivement les téléphones portables, mais aussi des consoles de jeux reconditionnées. On trouve également des ordinateurs et des tablettes reconditionnées, sans oublier des appareils électroménagers reconditionnés, machines à laver, des aspirateurs et des téléviseurs.
Mais d'où ils viennent ces produits?
Alors, pour bien comprendre, reprenons l'exemple du téléphone.
Ouais.
Toutes les grandes marques fabriquent leurs produits neufs en Chine et en Asie du Sud-Est. C'est un marché mondial. Et sur la partie reconditionnée, ils viennent aussi du monde entier. Les reconditionneurs vont aller chercher un téléphone d'occasion aux États-Unis pour le faire réparer en Chine et le revendre ensuite sur le marché français. Le nombre de kilomètres parcourus par ce téléphone est tout bonnement hallucinant.
Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, ben voilà.
Donc sachez qu'il existe quand même en France des reconditionneurs qui ont fait le choix de s'engager dans l'économie circulaire. Ouais. Ils récupèrent des téléphones d'occasion sur le territoire national. Il y a plus de 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français, selon un rapport du Sénat. Ils vont donc collecter nos vieux téléphones, ils les remettent en état en France, dans des usines en France, et ils les revendent sur le marché français.
Et qui procède au reconditionnement des appareils?
Eh bien, ce sont des mécaniciens d'électronique, des industriels. Donc, on trouve souvent dans les pays de main-d'œuvre à bas coût, en Roumanie, en Pologne, en Asie. Mais il existe aussi donc une industrie du reconditionnement 100% made in France, avec deux entreprises exemplaires, l'entreprise Smart, qui collecte les appareils sur le territoire, qui les répare dans son usine à Montpellier pour les revendre en ligne ligne sur son site internet. Il y a aussi la société Cordon Electronics avec sa marque et son site internet Cadaos. Les appareils, téléphones, décodeurs, batteries sont réparés près de Dinan. Le site emploie 2900 personnes. Après, il existe d'autres sites comme recommerce.com qui récoltent les appareils en France et dans l'Union européenne pour les faire réparer en Roumanie, mais aussi en France par des sous-traitants à Dijon, en Normandie, en région parisienne, pour les revendre ensuite sur le marché français. Ouais. Ou encore, je vous cite une marque, Again, filiale d'Itensia près de Cholet, qui remet en état des smartphones et des tablettes d'Apple qui viennent pour beaucoup des États-Unis. En fait, aujourd'hui, le marché du reconditionnement représente en France 50 000 emplois.
Ce qui est déjà très bien. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui les distribue ? Où est-ce qu'on peut acheter ces produits reconditionnés ?
Alors, vous les trouvez aujourd'hui en vente dans les rayons des grandes surfaces ou encore chez votre opérateur de téléphonie mobile. Et bien sûr, vous en trouvez énormément sur Internet. Amazon, Cdiscount, Backmarket, Fnac Darty, Rue du Commerce, ce sont essentiellement des marketplaces, des places de marché qui mettent en relation un vendeur avec un acheteur. Mais vous ne savez pas qui est le vendeur derrière. Ce n'est pas l'enseigne elle-même, elle est juste un intermédiaire. Donc il faut mener sa petite enquête avant d'acheter pour être sûr de ne pas prendre n'importe quoi.
Mais pourquoi ? Parce qu'on encourt des risques en fait en achetant un produit reconditionné ?
Ah mais oui, le premier risque c'est que l'appareil ne fonctionne pas. Mais le pire c'est qu'il peut être dangereux. Si la batterie du téléphone reconditionné est une contrefaçon, elle peut gonfler et exploser. Et si le chargeur du téléphone ne respecte pas les normes CE, lorsque vous le branchez, vous pouvez vous électrocuter avec.
Attends, c'est super dangereux.
Bah oui, donc si vous ne savez pas du tout quel est l'industriel à l'autre bout du monde qui a reconditionné le produit, non seulement vous ne savez pas du tout quelles normes il a respectées, mais en plus, il ne vous répondra pas en cas de souci.
Des personnes ayant acheté des smartphones se sont retrouvées avec des produits non compatibles car ils étaient formatés pour d'autres pays. Vous nous disiez il y a un instant que ça pouvait venir effectivement d'Asie ou que ça pouvait venir des États-Unis. Quels sont les critères pour acheter un produit reconditionné sans mauvaise surprise?
Alors, vous avez 4 questions à vous poser. Soit vous cliquez sur la fiche produit du vendeur sur Internet, ou soit vous demandez directement à votre vendeur en magasin.
D'accord.
Alors, la première question, c'est d'où vient ce produit ? Où était-il mis sur le marché quand il était neuf ? Pour ces questions de formatage, il ne peut pas être compatible avec des réseaux opérateurs en France, si ça se trouve. Deuxième question, où est l'usine de reconditionnement ? Dans quel pays ? Pour être sûr qu'ils mettent des pièces autorisées dedans. Troisième question, qui est le distributeur ? La grande distribution ? Un opérateur ? Un site internet ? Une marketplace ?
Mais qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, ça permet de savoir quelle garantie vous allez avoir en cas de pépin. Si c'est un Chinois sur une marketplace qui ne connaît pas le droit français, c'est mal engagé. Donc, mieux vaut toujours regarder où se situe le siège social du vendeur à qui vous achetez. Et cela va avec la dernière question. Est-ce qu'il y a un service client, un service après-vente que vous pouvez appeler ? Et où il se situe ? Dans quel pays ? Pour ne pas se faire avoir, il faut se poser ces 4 questions.
Alors, on a les 4 questions désormais. Il y a également la garantie qui est un véritable sujet, j'imagine, pour ceux qui nous écoutent. On va se retrouver dans un instant et vous allez nous éclairer sur ce sujet. On va parler également de nos animaux de compagnie et des soins vétos avec Charlotte Deveau. Et puis la betterave. Vous avez vu, elle est de retour, la bonne betterave. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ligori Lecomte nous racontera ça dans un instant. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Les soins vétos et la betterave sont à suivre, mais pour l'heure, on est avec Armelle Lévy. La bonne idée de Goldman, la bonne idée aujourd'hui, c'est de parler des produits reconditionnés. On a quand même le sentiment que c'est bourré d'avantages. Armelle Lévy, merci de nous éclairer à ce sujet. On s'interroge aussi sur la garantie de ces produits que l'on peut acheter, que ce soit un téléphone ou de l'électroménager. Comment ça se passe ?
Eh bien, la garantie est souvent de 24 mois. Comme pour un œuf, pour rassurer les consommateurs, les reco-sceptiques, ceux qui se méfient du reconditionnement, vous choisissez l'état du nouveau téléphone, correct, bon état ou comme neuf. Mais un conseil, dès que vous recevez l'appareil, testez-le et contactez immédiatement le service client en cas de problème, parce que si vous attendez et que vous le faites tomber, vous lui faites un éclat, une bosse, la garantie ne va pas s'appliquer, on va vous dire que c'est votre faute, même si à la base, le problème n'a rien à voir avec vous.
Mais alors justement, les avantages, ils sont nombreux pour se tourner, les avantages à se tourner vers l'achat de produits reconditionnés.
Oui, c'est le prix d'abord. Vous trouvez des smartphones à moins de 100 euros aujourd'hui pour des modèles anciens, mais si le prix est trop alléchant pour un nouveau modèle, ça peut sentir l'arnaque ou le blanchiment. Donc comparez toujours avant.
Okay.
L'avantage également, c'est que vous pouvez aussi revendre votre téléphone ou votre appareil pour vous faire de l'argent de poche ou pour en racheter un plus récent reconditionné. On peut vous le reprendre entre 30 euros et 1000 euros selon le modèle et l'ancienneté. parce qu'il existe aujourd'hui un Argus de la téléphonie. C'est un peu comme le marché automobile. Plus le produit est ancien, plus la cote est faible, mais plus le produit est récent, plus le prix est élevé.
Est-ce qu'il y a un bémol ?
Eh bien, le bémol, c'est que ce secteur des smartphones et ordinateurs reconditionnés pourrait bientôt être assujetti à une nouvelle taxe, la redevance copie privée, qui rémunère les artistes, auteurs et producteurs en droit d'auteur parce que ces appareils permettent de faire des copies. Elle existe déjà sur les téléphones neufs, mais comme là, on parle d'un nouvel utilisateur, cette taxe de 14 euros s'appliquerait sur l'achat d'un smartphone reconditionné. Okay. Autant dire que les professionnels sont plutôt inquiets en ce moment. Ce sera tranché au mois de juin, mais le débat est rude entre le ministère de la Culture, qui est favorable, et celui de la transition écologique qui est opposé.
Bah oui, parce qu'évidemment, ce sont des achats qui sont éco-responsables.
Ah oui, pour fabriquer un téléphone neuf aujourd'hui, il faut 60 kg de CO2 et 56 kg de matières premières issues de la planète pour fabriquer un téléphone de 150 grammes. C'est énorme. Et en achetant un téléphone reconditionné, non seulement vous prolongez la durée de vie de l'ancien appareil de 6 ans, plutôt que de le jeter, mais aussi, pour le reconditionner, on utilise 8 kg de CO2 au lieu de 60 kg pour un œuf. Donc c'est effectivement plus éco-responsable s'il ne fait pas le tour de la planète
Évidemment.
Qu'il est bien transformé ici.
Où est-ce qu'on peut acheter ce type de produit ? Est-ce qu'il existe des enseignes sûres pour ceux qui seraient convaincus désormais ?
Alors oui, vous pouvez acheter maintenant des produits reconditionnés chez votre opérateur de téléphonie mobile, dans les grandes surfaces, dans les grandes enseignes spécialisées d'informatique et d'électroménager. Il y a aussi une toute nouvelle enseigne spécialisée qui est en train d'ouvrir depuis un an une cinquantaine de boutiques en France. Elle s'appelle Upstyle Store. Elle vous rachète votre ancien modèle et vous repartez avec un smartphone qui a été reconditionné dans la Drôme à Romans-sur-Isère. Sur Internet, le site numéro 1 en France, c'est backmarket.fr. La start-up française a un service client en France, donc c'est rassurant. Mais attention, c'est une marketplace. C'est bien de regarder toujours qui est le vendeur derrière. Il y a aussi recommerce.com.
Ouais.
Mais si vous cherchez vraiment à acheter dans l'économie circulaire, collecté en France, reconditionné en France et vendu en France, vous avez les sites smart.fr, S-M-A-A-A, il y a trois A, .fr et cadaos.com.
Et bien maintenant, on sait quoi faire. Merci beaucoup Armelle Lévy pour toutes ces informations qui vont nous permettre d'être des consommateurs encore plus avertis. Merci à vous. Vous avez des animaux ?
Non, mais j'en ai eu, des chats.
Eh bien, très bien, on va parler des chiens, on va parler des chiens, on va parler des animaux dans un instant avec Charlotte Deveau.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Moi, j'aime bien les animaux, les petits chats surtout.
Les animaux de Renault. Charlotte Deveau, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes l'ami des animaux puisque vous êtes vétérinaire et vous êtes auteur d'un livre Croquettes ou pâtés aux éditions Point Vétérinaire. Les Français, ils sont particulièrement attentifs à la santé de leurs animaux, hein.
Alors, plus que les Français, je dirais plutôt les Françaises. Parce que maintenant que les animaux sont considérés un peu comme des enfants dans les familles, ce sont beaucoup les femmes qui s'en occupent de la même façon que les enfants. Donc c'est assez drôle, quand c'est les hommes qui viennent chez le vétérinaire, souvent c'est la femme qui a pris rendez-vous. Et si il arrive avec un petit post-it aussi rempli avec les questions de la femme,
ouais.
Et quand on pose des questions, en disant, par exemple, bah, de quand date son dernier vermifuge, soit ils disent, bah, je sais pas, c'est ma femme qui m'en occupe, soit carrément ils appellent leur femme. Alors ça, ce n'est valable que si c'est un chien de compagnie. Pour les chiens de chasse, ça reste
les
hommes qui s'en occupent.
D'accord, mais c'est dire effectivement si les animaux font partie de la famille, quoi.
C'est exactement.
Est-ce que nos animaux, en fait, sont confrontés à des problèmes de santé similaires aux nôtres ?
Alors oui, alors je vais nuancer. Pour les problèmes infectieux, pas tellement. On a tous des bactéries et des virus qui sont spécifiques. En revanche, pour les maladies chroniques, on a à peu près les mêmes problèmes. Donc les deux plus gros problèmes, ça va être l'obésité. Parce qu'eux aussi, ils vont être sédentaires, donc ils ne vont pas assez bouger. Ils vont avoir tendance à grignoter, enfin plutôt on va avoir tendance à leur donner des friandises.
Ouais.
Donc un peu comme nous, qui sommes trop sédentaires et grignotons trop. Et le deuxième autre problème chronique qu'ils partagent avec nous, c'est les cancers. Parce qu'ils partagent le même milieu de vie que nous, donc ils sont soumis aux mêmes polluants, et ça peut développer les mêmes maladies.
Ah ok, et question dans l'air du temps, est-ce qu'ils peuvent contracter la Covid, avoir des symptômes ?
Alors oui, ils peuvent, c'est très rare. Il y a quelques cas qui ont été décrits, aussi bien chien que chat. Donc quand les maîtres sont affectés et qu'ils excrètent beaucoup le virus dans l'environnement, ça peut arriver que le chien ou le chat puisse l'attraper. Et dans ce cas-là, ils vont avoir des symptômes. Alors il y a des symptômes respiratoires qui ont été décrits comme les symptômes classiques chez l'humain.
Mmh.
Et il y a eu des symptômes plus étranges avec le variant anglais qui sont des myocardites, donc des inflammations du cœur.
Mmh.
Et donc, dans tous les cas, bah, de toute façon, si l'animal est malade, il faut consulter le vétérinaire.
D'accord, donc ça ne passe pas tout seul. C'est-à-dire que la Covid chez un animal de compagnie peut effectivement aller loin.
Alors, ça peut. Et dans tous les cas, voilà, si l'animal est gêné par des symptômes, déjà, il faut évaluer qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas forcément ça. Et en plus, après, oui, il faut le soigner.
D'accord. Les vétérinaires, parce que là, vous nous parlez des chats et des chiens, mais ils prennent en charge d'autres animaux.
Alors, bien sûr, historiquement, les vétérinaires, la profession de vétérinaire a été créée pour soigner les animaux de rente. Donc, les animaux d'élevage, les vaches et puis les chevaux à l'époque.
Oui, moi, j'ai été élevée à la campagne, c'est ainsi que j'ai connu votre métier. Hein.
Bah oui, et c'est encore aujourd'hui voilà, un rôle fondamental des vétérinaires dans l'élevage. Donc, à la fois dans le bien-être animal, dans le fait qu'on puisse avoir de la viande de qualité, ils soignent les animaux. Ils assurent aussi la qualité des viandes. Il y a des vétérinaires qui travaillent dans les abattoirs. Et les vétérinaires préviennent aussi toutes les maladies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la grippe aviaire actuellement. Bah, c'est aux vétérinaires de gérer donc, toutes ces épidémies. Et ils gèrent tout ce qui est zoonose, donc les maladies qui transmettent de l'animal à l'humain. Et c'est pour ça qu'il y a un vétérinaire qui est rentré au conseil scientifique aujourd'hui pour la Covid.
On va se retrouver dans un instant pour savoir un petit peu quel est le rythme, je dirais, de rendez-vous chez le vétérinaire pour nos animaux de compagnie. Et puis après, on donnera la parole à Ligori Lecomte qui est éleveur de betteraves. Voilà, chacun son truc. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Elle est de retour, c'est la betterave. On va en parler avant 10h avec de super recettes. Mais pour l'heure, on s'occupe de nos animaux de compagnie en compagnie de Charlotte Deveau.
Il y a une heure où va retentir le signal.
Vous êtes donc vétérinaire, Charlotte Deveau. On a compris que ce sont plus les femmes qui prennent rendez-vous chez le véto pour les animaux de compagnie. Et quand ce sont ces messieurs qui y viennent, ils arrivent en général avec un post-it et les questions à poser au véto. Ce que je trouve quand même très mignon. Les rendez-vous chez le vétérinaire, c'est minimum une fois par an, c'est pour les vaccins?
Alors oui, quand ils sont adultes, c'est une fois par an. Mais quand ils sont petits, on va les voir plus souvent. Ouais, donc les chiots et les chatons, on va les voir à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois pour leur premier vaccin. Après, on les voit vers 6 mois autour de la puberté pour discuter de la stérilisation. Très souvent, on stérilise les chats. Pour les chiens, on en discute. Et on va les voir à 1 an pour finir leur primo-vaccination. Quand ils sont plus vieux, on va essayer de les voir plutôt tous les 6 mois pour dépister plutôt les maladies chroniques qui vont commencer à arriver.
D'accord. Quel type d'examen un vétérinaire peut-il pratiquer sur nos animaux de compagnie? Vous nous parliez des maladies tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut faire des radios, des IRM
Alors, on peut pratiquer à peu près tous les examens qui se pratiquent chez l'humain. Alors, dans une clinique vétérinaire classique, on va pouvoir pratiquer des examens de sang, donc des analyses biochimiques, de l'hématologie. Dans les cliniques un peu plus poussées, on pourra faire des gaz du sang, comme dans l'urgence, de l'endocrinologie. Les grandes cliniques vont avoir un échographe et une radio. Les cliniques de référé, les centres hospitaliers vétérinaires vont avoir jusqu'à un scanner, certains des IRM. Il y a assez peu de choses qu'on ne fait pas, en fait.
D'accord. Les soins vétérinaires, ça a quand même un certain coût. La consultation, elle est plus chère qu'un médecin généraliste, pour nous.
Alors oui, les vétérinaires sont plus chers que les médecins généralistes pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que les vétérinaires payent la TVA. Ouais. Donc, sur tout ce que le client va donner à un vétérinaire, le vétérinaire va reverser 20% à l'État. Et la deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup plus d'équipements qu'un médecin généraliste. Donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, un appareil d'analyse de sang, une radio, une écho, tout ça, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, ce sont des investissements qui coûtent cher.
Voilà, ce qui nous fait penser parfois effectivement que notre chat ou notre chien nous coûte parfois une petite fortune si effectivement il est malade. Les tarifs des soins les plus courants, les vaccins, les stérilisations, c'est quoi?
Alors, ça dépend de l'endroit, ce ne sera pas les mêmes tarifs à Paris ou en Ardèche. Pour une consultation, il faut compter à peu près entre 30 et 40 euros. Les vaccins, plutôt 60-70, mais ça dépend vraiment des types de vaccins. Et après, pour tout ce qui est stérilisation, bah, ça dépend. Si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est un mâle, si c'est une femelle, pour le chien, ça dépend du poids. Donc, c'est très compliqué de faire des généralités.
D'accord. On peut se faire rembourser, en fait, ces consultations?
Oui, maintenant, il existe des assurances pour animaux de compagnie, tout à fait.
Donc, il faut contracter auprès de son assureur une assurance qui permette le remboursement?
Alors, pas forcément son assureur. Il y a des assurances spéciales pour les animaux de compagnie et qu'on peut contracter. Il faut les contracter généralement avant les 5 ans de l'animal.
Et c'est intéressant?
Bah, mon avis, c'est que mieux vaut mettre la cotisation tous les mois dans une tirelire et payer le vétérinaire avec, parce que le but de l'assureur, c'est quand même de se faire de l'argent et de payer son personnel. Donc, on va pas forcément rentrer dans ses frais. Après, c'est vrai qu'en pratique, les gens dont l'animal est assuré vont avoir tendance à plus soigner parce que Bah oui, c'est plus facile quand on doit sortir 1500 euros pour une chirurgie orthopédique de se dire qu'on va être remboursé une partie si on n'a pas pris soin tous les mois de mettre soi-même de côté. En fait, c'est dur d'être discipliné soi-même et d'épargner tout seul pour son animal.
Eh bien, on l'aura compris. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte Devaux, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous en ce samedi matin. Je conseille votre podcast La truffe dans la gamelle. Voilà, sur toutes les plateformes. Merci, Charlotte Devaux. À bientôt.
Merci,
bonne fin de journée à vous. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
J'étais en train de me demander, mais quel est le rapport avec Fatal Bazooka? Ouais, la culture de la betterave. Salut Ligori Lecomte.
Bonjour Flavie, belle entrée encore, un joli choix musical.
Hein. Oui, exactement, on salue d'ailleurs Alexandra Polakzik, productrice de cette émission qui se charge tous les samedis matins donc de la programmation musicale. Ligori, vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes auteur culinaire. La betterave is back, voilà. La betterave est de retour et ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas le plus populaire des légumes. On ne sait pas d'ailleurs trop quoi en faire, vous allez nous l'expliquer, mais pourquoi? C'est parce qu'elle a un goût particulier?
Alors c'est ça, en fait elle a un petit goût qui peut paraître un petit peu terreux pour certains, voyez. Moi je la trouve un peu sucrée et douce, mais bon, chacun lui donne un peu l'image qu'il veut. C'est vrai qu'elle traîne un peu une mauvaise image, alors que c'est dommage, parce que c'est quand même très très bon, et puis ça revient un petit peu à la mode. Ouais.
Et puis alors, il y a la betterave que l'on voit sur l'étal du maraîcher, hein, qui est une betterave crue, et puis il y a celle qu'on achète qui est déjà cuite et qui est déjà parfois même découpée. Là, on ne parle pas du tout du même produit.
Non, bien sûr, là, ça ne sera pas même plaisir à cuisiner déjà.
Oui, c'est
vrai. Et puis, oui, il existe même plusieurs variétés. Hein. Souvent, on pense peut-être. C'est peut-être ça aussi qui lui fait trimballer une mauvaise image. C'est un peu la betterave fourragère. Vous voyez, c'est celle qu'on utilisait plutôt pour nourrir les animaux. Et puis après, il y a eu la betterave aussi sucrière, qui sert à prélever le saccharose. Et puis nous, voilà, la petite betterave potagère qui va bien et qui se cuisine facilement.
Et il y en a plein de variétés parce que parfois, quand on les découpe, on se rend compte que ce ne sont pas du tout les mêmes.
Tout à fait.
Une fois
pour les ouvres, vous envoyez des rouges, des roses, des blanches et roses, des jaunes. Il y a vraiment toutes les couleurs. On peut se faire vraiment plaisir dans les assiettes.
Voilà, ça peut être très bon et ça peut décorer les assiettes et les rendre beaucoup plus joyeuses. Elle possède des bienfaits nutritionnels qui sont particuliers, non?
Oui, alors bon, je vais être honnête, c'est quand même moyennement calorique. Hein. On l'a dit, ça contient un petit peu de sucre.
Ça nous va bien. Ouais.
Voilà, mais c'est aussi plein de vitamines et plein de minéraux, notamment le calcium et surtout le potassium. Donc voilà, encore une autre raison pour en consommer.
D'accord, de toute façon, il faut toujours consommer des légumes. Voilà,
et tout à fait.
Bio de préférence, ça vaut aussi pour la betterave. Comment est-ce que je choisis ma betterave?
Alors, il faut la choisir assez ferme avec une peau qui n'est pas trop sèche. Voyez, et puis alors, l'autre astuce que je peux vous donner, c'est de la choisir pas trop grosse. Pourquoi? Parce que plus la betterave va être volumineuse, plus elle va être fibreuse. Forcément.
Oui,
c'est valable
c'est
pour d'autres légumes, notamment la betterave.
Et plus difficile à cuisiner, je trouve
tout
aussi, quand elle est balèze. On la conserve comment, la betterave?
Alors, on peut la conserver plusieurs jours au frigo. Mais alors, surtout, ce que je vous conseille, quand vous l'achetez au marché, c'est de couper les fans. Pourquoi? Parce que comme pour les carottes, en fait, les fans vont un petit peu pomper un petit peu d'énergie la betterave. Et c'est ce qui va périr en dernier. Donc surtout, on coupe les fans et puis on en fait autre chose.
Alors, dans un instant, vous allez nous dire comment la consommer. Parce qu'effectivement, elle est là, la betterave. Elle n'est pas très chère. Il y a plein de choses à faire avec la betterave. On peut la consommer crue, on peut la consommer cuite. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et vous allez nous donner une recette de carpaccio de betterave et une petite tarte betterave meringuée. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
La betterave est à l'honneur avec Ligori Lecomte jusqu'à 10h sur RTL. L'âge de glace 2, ça me donne faim de parler de la betterave avec vous, Ligori Lecomte. Alors, crue ou cuite la betterave?
Les deux sont possibles, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut faire les deux.
Très bien, on les choisit petites, on les choisit de préférence pas trop sèches. On leur coupe les fans, on les conserve quelques jours au réfrigérateur. Maintenant, si je veux la cuire, qu'est-ce que j'en fais?
Alors, on a plusieurs possibilités pour la cuire. Hein. Vous connaissez sûrement la méthode à mettre dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Mais on peut aussi la cuire à la vapeur, on peut aussi la cuire dans une cocotte. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est surtout la faire cuire au four. Un peu version betterave rôtie, c'est vraiment un régal. Vous y mettez juste un petit peu d'huile, un petit peu d'assaisonnement, c'est le poivre, hein, quelques herbes dessus. Et puis, vous enfournez ça pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Et en fait, ça va un petit peu caraméliser. Ça, on parlait tout à l'heure du sucre que contient la betterave. Ben là, en fait, ça va caraméliser tout ça. Et c'est vraiment un régal.
Je ne la mets pas entière dans le four, hein, on est d'accord. Non, mais non, parce non, que c'est, on pourrait être tenté, mais ça va mettre un temps infini parce que ça longtemps de cuisson pour la betterave.
Exactement. Surtout, on la taille d'abord, sinon là vous êtes parti pour 3 heures pour la laisser dedans.
C'est ça.
Donc voilà, plus les morceaux seront petits, plus ça ira vite forcément.
Très bien. Et ça vaut aussi pour la cuisson à l'eau. Vous disiez qu'on pouvait couper les fans. Est-ce qu'on peut les conserver et en faire quelque chose quand même?
Oui, alors si c'est une jeune betterave, hein, en termes de jeunes pousses, on peut les manger en salade, hein, sans souci. Et puis si les feuilles commencent un petit peu à grandir, on pourrait les transformer en un pesto de betterave sans problème.
Ah, pas mal, ça, on fait comment ?
Tout à fait. Alors en fait, vous faites comme si vous faisiez un pesto avec du basilic. Hein, donc là, on va remplacer le basilic par les feuilles de betterave. Donc ensuite, vous mettez de l'huile d'olive, du parmesan, des pignons de pin. Et puis, vous faites exactement comme si vous faisiez un petit pesto.
Et la betterave, c'est très coloré, évidemment.
Oui.
On s'en met un peu partout, je dirais, même quand on la manipule. On peut s'en servir en colorant.
Oui, alors tout à fait. Alors après, pour la méthode, soit vous prenez, alors si vous avez la chance d'avoir une petite centrifugeuse, soit vous pouvez mixer la betterave, puis vous la passez un petit peu au chinois. Vous utilisez le jus en fait comme colorant, mais le reste qui vous reste dans la petite passette, vous l'utilisez hein, forcément, vous faites une petite verrine ou autre avec. Mmh. Et donc ce jus que vous avez récupéré, on peut l'intégrer dans une sauce, dans une pâte à pain par exemple, ou dans une pâte à pâte fraîche aussi, des pâtes à gâteau, sans problème, ce sera un super colorant naturel. Ouais.
Moi je m'en sers beaucoup quand je fais des jus à l'extracteur, je trouve que tout ça donne un certain goût et que c'est forcément bon avec une carotte, une pomme et un citron, et en ça c'est délicieux. Avec quels aliments est-ce qu'on peut associer la betterave quand on la cuisine ?
Alors moi j'aime bien associer avec des éléments un petit peu plus acides pour justement contrebalancer un petit peu le sucre, le vinaigre, le citron, les câpres. C'est pour ça que j'adore utiliser la betterave crue en carpaccio notamment.
D'accord, ce que vous allez nous indiquer dans un instant, ça peut aussi accompagner un poisson. Moi c'est plus avec le poisson qu'avec la viande je trouve d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais une petite purée de betterave avec un poisson, je trouve ça délicieux. Il paraît qu'elle se cuisine aussi en dessert.
Oui.
Tout alors, fait, comment on fait? Vous nous en avez touché deux mots. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors, en fait, moi, là, ce que je peux vous proposer, c'est une petite tarte de betterave, en fait, comme si vous imaginiez une tarte au citron meringuée.
Ah, j'adore.
Vous voyez un petit peu l'idée.
On y va.
En fait, là, on va faire exactement la même chose, mais avec de la betterave rouge.
Très bien. Alors, recette.
Alors, en fait, ce qu'on va tout d'abord faire, c'est une pâte sablée. Soit vous l'achetez toute faite, soit vous pouvez aussi la faire facilement. Hein, farine, beurre, sucre glace, un jaune, un petit peu d'eau. Et puis, vous maxez tout ça avec une pincée de sel. Et puis, vous faites votre petite pâte sablée.
Okay.
Ensuite, je vous ai parlé d'un lemon curd. On va faire exactement la même chose, mais avec un jus de betterave plutôt qu'un jus de citron. Donc là, pour la recette, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 40 centilitres de jus de betterave, 150 g de sucre, 3 œufs et une cuillère à soupe de maïzena. Vous prenez tout ça, vous le mélangez bien dans un saladier avec un fouet. Et ensuite, on va les mettre dans une casserole à feu moyen. Et là, en fait, on va arriver jusqu'à l'ébullition. Alors, vous continuez à mélanger hein, continuellement. Et à l'ébullition, vous comptez encore une minute. Voilà, ça va faire un beau bouillon pendant une minute. C'est comme ça, là, vous êtes sûr que votre préparation, une fois qu'elle va refroidir, elle va rester un petit peu gélifiée, un petit peu figée, ce sera parfait. Le temps que ça refroidisse gentiment, vous mettez tout ça dans une poche à douille et puis vous allez réaliser une petite meringue. Donc là, je vous conseille, moi, 70 g de blanc, 90 g de sucre. On va battre tout ça jusqu'à obtenir une meringue que je mets aussi dans une petite poche à douille. Et puis alors, ensuite, sur votre pâte sablée que vous aurez fait cuire une vingtaine de minutes au four, vous allez avec vos deux poches à douille jouer à faire des petites boules de cette crème betterave, un petit peu de meringue, betterave, meringue. Voilà, vous faites exactement comme bon vous semble sur cette pâte feuilletée. Et puis après, avec un petit chalumeau, il vous restera à passer juste sur la petite meringue pour la caraméliser. Et puis vous aurez cette superbe tarte à la betterave. Et c'est assez surprenant. C'est un petit goût un petit peu de châtaigne, vous savez, une fois que c'est cuit et que c'est sucré.
Très bien. Et ça, je n'ai pas à rajouter de sucre. Hein.
Non, pas du tout.
D'accord,
du tout.
Parce que c'est déjà sucré, en fait.
Tout à fait.
Très bien, ok. Et alors avant, si on se fait un petit carpaccio de betterave?
Ah bah voilà, exactement. Comme ça, on aura vu le cuit. Là, on va repasser un petit peu sur le cru. Parce que souvent, les gens ont un petit peu peur pour ça. Alors là, deux méthodes. Hein. Soit vous avez une mandoline. Vous savez, alors attention les doigts, hein, quelque chose qui coupe.
Dangereux.
Mais que parfois, maintenant, je vois quelque chose de plus en plus de personnes ont ça chez eux. Mmh. Soit au couteau, on va couper. Alors, l'idéal, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est d'avoir des betteraves de plusieurs sortes. Hein. Vous variez les couleurs, jaune, blanc, violet. Et puis, on va s'amuser à tailler très finement toutes ces petites betteraves qu'on aura épluchées au préalable. Et puis, on va faire exactement comme si ces petites tranches de betterave, c'était des fines tranches de bœuf. Et on va aller faire une jolie rosace en alternant les couleurs dans une assiette. Et puis, on va y rajouter des grosses câpres italiennes, même quelques petits piments qu'on pourrait mettre dessus. Vous mettez un petit peu de vinaigre. Moi, j'aime bien le balsamique, mais ça peut être vinaigre de vin, de l'huile d'olive, et puis quelques copeaux de parmesan, quelques herbes, un tour de sel, un tour de poivre du moulin. Et c'est hyper simple, c'est hyper bon pour ce début d'été. Et puis je vous garantis que vous y retournerez sur cette petite recette.
Très bien. Et en plus, effectivement, ce sont des recettes joyeuses et qui ne coûtent pas cher, hein, parce que la betterave, c'est effectivement un légume qui est un légume populaire et un légume peu cher. Merci beaucoup, Ligori Lecomte, pour cette découverte de la betterave de façon complètement inédite. On a bien compris que la betterave, on peut faire du salé, on peut faire du sucré. Merci, Ligori Lecomte. On retrouve donc vos recettes sur le site cuisineaz.com. À bientôt, Ligori. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous en ce samedi. C'est l'heure des bisous, car nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant de nous retrouver samedi prochain, vous pouvez retrouver justement le replay de cette émission sur l'appli RTL ou sur Radio Player France et les Astuces 07 sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.